Les colloques du Collège de France.
Mesdames et messieurs, il est temps de reprendre nos travaux en poursuivant l'élargissement de la focale à l'échelle du monde. Et qui mieux que Francisco Bettencourt pour introduire cette demi-journée intitulée « L'histoire de l'Europe à l'épreuve du monde ». Puisque Francisco Bettencourt incarne à nos yeux la figure même de l'historien européen. Il est né au Portugal, où il a été éduqué. Il a, très jeune, peut-être était-tu le plus jeune directeur de la Bibliothèque nationale du Portugal. Il a ensuite travaillé en France, en étant directeur du centre Calouste Gulbenkian à Paris. Et puis, depuis plusieurs décennies, tu occupes la chaire Charles Boxer à King's College, à Londres, où il est devenu un des principaux promoteurs de l'histoire globale à travers de nombreuses publications, et j'en retiendrai seulement quelques-unes aujourd'hui avant de lui céder la parole. Un ouvrage, la première grande histoire européenne des racismes, donc qui s'intitule en anglais Racism et qui a été traduit il y a quelques mois seulement en langue française. Une histoire globale de l'Inquisition, The Inquisition Global History, qui est comme son histoire des racismes, une histoire de très longue durée entre la fin du XVe siècle et le début du XIXe siècle, et puis aussi une histoire monumentale de l'expansion portugaise dans le monde entre 1400 et 1800, The Portuguese Oceanic Expansion, publié en 2007. Dernier ouvrage important, intitulé « Strangers Within », un ouvrage qui n'est pas encore publié en français et dans lequel Francisco étudie le rôle des Juifs convertis de force au christianisme, leur rôle déterminant dans les réseaux commerciaux transocéaniques, leur rôle naturellement dans la péninsule ibérique et au-delà. Voilà. Merci beaucoup Francisco d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup de l'invitation et merci aussi pour ces paroles gentilles. Pierre Saint-Gravelou et Patrick Pouchon, évidemment, sont les figures de l'histoire globale en France, clairement. Et il y a un échange permanent. C'est un plaisir d'être ici où j'ai suivi les cours de Pierre Bourdieu et de Jean de Lumeau et j'ai visité plusieurs fois mon ami Daniel Roche. Notre recherche est guidée par des questions comparatives et de longue durée. Quand et à quelle fin la notion d'Europe, puis d'Occident, a été créée? De quelle manière l'expansion européenne a influencé la perception des autres parties du monde? Comment l'Europe a été façonnée par des échanges permanents? Quel est l'état des connaissances concernant l'histoire de la production économique dans différentes régions du monde? Comment les divisions sociales ont-elles émergé et comment ont-elles évolué? Le mythe grec du rapt d'Europe situait clairement son enlèvement par Zeus comme un transfert depuis les côtes de l'Asie occidentale. L'origine de l'Europe n'aurait pas pu être mieux identifiée au passé phénicien. Nous connaissons aujourd'hui le rôle crucial de Byblos, tant sur le plan littéraire qu'économique, avec les expériences sur l'alphabet, où une lettre correspond à un son, et l'importance de l'exportation du cèdre en raison de sa durabilité et de sa résistance, idéale pour la construction navale, le logement, le mobilier et le stockage des tissus. Le développement de la notion d'Europe en tant que masse continentale opposée à l'Asie, résultat du conflit entre les Grecs et les Perses, évident chez plusieurs auteurs d'Hérodote à Aristote. La signification politique de la définition arbitraire des continents devint visible avec l'expansion grecque vers l'Est, menée par Alexandre le Grand, suivie d'un mélange délibéré avec les élites locales. Ce projet dissipa temporairement le contraste entre l'Europe et l'Asie. L'opposition romaine entre l'Orient et l'Occident s'est prolongée avec la création de l'Empire byzantin, ce qui a conduit à la distinction entre christianisme orthodoxe et christianisme romain. L'expansion musulmane ultérieure vers l'Ouest a été contrée par les croisades chrétiennes en Ibérie, en Sicile et en Terre Sainte, des croisades occidentales et orientales, comme dirait Alphonse Duperon. La création de l'Empire ottoman a établi une nouvelle couche de conflits politiques qui n'excluait pas pour autant des échanges commerciaux et culturels permanents. L'expansion de la Russie du XVIe au XXe siècle a fini par empiéter sur les territoires ottomans autour de la mer Noire, contribuant ainsi à l'érosion et à la désagrégation finale de cet empire à la fin de la Première Guerre mondiale. Le christianisme fut un élément déterminant de la construction politique de la notion d'Europe au Moyen-Âge, dans le cadre d'un processus d'intégration de l'Europe centrale et orientale, de la Scandinavie et de la Russie. L'idée culturelle de l'Europe, fondée sur la tradition classique, fut exprimée par Ennio Silvio Piccolomini, qui utilisa le terme « barbare » pour s'opposer à l'expansion de l'Empire ottoman. Machiavel reprit la notion grecque de despotisme oriental pour promouvoir le républicanisme et la diversité politique européenne. La notion de despotisme allait connaître une longue vie, puisque les Européens l'utilisaient régulièrement lorsqu'ils commentaient les empires ottomans ou moghols pour critiquer les développements politiques chez eux, comme dans le cas de François Bernier, qui voulait dénoncer la politique de Louis XIV. Cela s'inscrivait dans une tradition consistante à utiliser des exemples extérieurs pour formuler des critiques internes. Montaigne s'est penché sur le cannibalisme des Amérindiens pour fustiger les massacres de la Saint-Barthélemy, tandis que Montesquieu, bien plus tard, a utilisé un regard extérieur fictif dans les lettres persanes pour dénoncer les incohérences de la société française. Et on sait bien que Montesquieu aussi a été précédé par d'autres auteurs dans cette démarche. Dans le même temps, l'expansion européenne outre-mer a entraîné un glissement par rapport aux perceptions géographiques antérieures, passant d'abord de la centralité de la Méditerranée à celle de Jérusalem en tant que Terre Sainte, puis à la centralité de l'Europe en tant que continent imaginaire, favorisant ainsi le projet politique de domination mondiale alimenté par l'expansion ibérique, française, anglaise et néerlandaise, et ouvert à la participation de migrants et de capitaux provenant d'Italie, des pays germanophones et de la Scandinavie. Et nous avons ici le map, la carte TO, qui plaçait la Méditerranée et Jérusalem au centre. Et c'est une carte qui apparaît pour la première fois dans les étymologies d'Isidore de Séville. Et c'est curieux, parce que nous passons du 7e siècle, et après des reproductions qui se prolongent jusqu'au début du XVe siècle, mais on peut comparer avec cette carte la Chine en 1137 qui a été dessinée sur une pierre avec une grille de 5110 points qui indique 500 villes et petites villes et une douzaine de fleuves. Et ça, c'est la reproduction de la Zhenjiang pierre à la Library of Congress. Les Européens n'ont pas pu faire une chose semblable à cette époque-là, ils ont pris 7 siècles pour y arriver. La colonisation des Amériques, seul cas réel en raison du déclin démographique de la population autochtone, a créé un marché. Excusez-moi, mais je voulais montrer le changement de position et de perception, d'auto-perception des Européens avec la projection de Mercator de 1538. Ici, présenté sous la double forme, le double cordiforme, ou Europe, comme vous voyez là, Europe est placée plus ou moins au centre. Donc, la colonisation des Amériques, celle qu'a réelle en raison du déclin démographique de la population autochtone, a créé un marché de production et de consommation, une colonne vertébrale économique qui a soutenu la domination temporaire de l'Europe sur le monde du XVIIIe siècle aux années 1930. Et là, nous avons cette idée claire d'un arrière support, appui, qui a été déjà souligné par Kenneth Pomerantz. Cela explique le passage de la construction de la notion d'Europe à celle d'Occident pour comprendre les Amériques. Si l'on accepte la métaphore des continents, qui s'est enracinée et a inspiré des institutions politiques au cours des 80 dernières années, l'Europe a très tôt bénéficié de l'expérience de l'Asie occidentale en matière de techniques agricoles, d'élevage, de gestion de la propriété, de structures étatiques, d'expression artistique et d'orientation astronomique et enfin de religion. L'afflux technologique en provenance d'Extrême-Orient s'est manifesté par l'adoption du papier, de la poudre à canon, de l'imprimerie, des instruments de navigation. L'expansion européenne s'est caractérisée par une accumulation permanente de connaissances dans laquelle les informateurs locaux ont joué un rôle majeur pour identifier de nouvelles marchandises, des techniques de fabrication de textiles, des plantes médicinales, la quinine, un inventaire mondial de la flore, de la faune et des minéraux, sans parler des systèmes politiques et philosophiques. Cette extraordinaire accumulation de connaissances a constitué un atout important résultant de l'expansion européenne. Le principal moteur de cette expansion était l'avantage comparatif des autres parties du monde en matière de biodiversité. L'Atlantique Nord-Ouest était crucial pour la pêche, l'Amérique du Nord et la Sibérie pour les fourrures, les Amériques pour les métaux et les pierres précieuses, les perles et les colorants, l'Asie pour les épices, les bois, les pierres précieuses et la laque, l'Afrique pour l'or, l'ivoire et les autruches. Les échanges mondiaux de flore et de faune ont été renforcés par l'expansion européenne. Les Asiatiques ne s'intéressaient pas aux produits européens, à l'exception du corail. Ils n'acceptaient que des paiements en métaux précieux jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, l'Amérique a joué son rôle. En revanche, les produits manufacturés asiatiques étaient très prisés en Europe, tels que la soie et la porcelaine chinoise, les textiles en coton, les meubles et les sculptures en ivoire d'Asie du Sud, ainsi que la laque japonaise. L'impact économique et politique de l'Europe est devenu plus visible dans les Amériques, où une domination directe a été imposée, contrairement à ce qui s'est passé dans la majeure partie de l'Asie et de l'Afrique. La migration massive des Européens vers le Nouveau Monde a joué un rôle important dans tous les domaines, en allégeant la pression sur les contraintes économiques et sociales en Europe. L'impact démographique qui a entraîné une stagnation économique a été significatif en Afrique en raison de la traite des esclaves, des esclavisés, qui a concerné plus de 13 millions de personnes transportées d'abord vers l'Europe du Sud, puis vers les Amériques, dépassant la traite traditionnelle vers l'Asie occidentale. L'impact économique sur l'Asie du Sud est devenu écrasant, l'impact économique de l'Europe sur l'Asie du Sud est devenu écrasant à la fin du XVIIIe siècle, avec les politiques protectionnistes britanniques et la production industrielle de textiles qui ont sapé la production artisanale locale. Le 19e siècle et le début du 20e ont connu une augmentation extraordinaire de la production industrielle occidentale, soutenue par un contrôle politique direct sur des parties importantes de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, bien que l'impact local a été inégal, avec de nombreux cas de résistance, comme l'a montré Michael Haas. L'apogée de la domination européenne et nord-américaine sur le monde dans les années 1930 a été suivie d'un déclin progressif déclenché par la décolonisation. La contraction, avec après des siècles d'expansion, réduisant la domination et l'influence dans le monde, a été radicale, mais il a fallu du temps pour que les Européens eux-mêmes l'assimilent. L'émergence actuelle d'une extrême droite nationaliste est à la fois le refus d'une mondialisation échappant au contrôle occidental, ce qui signifie de faibles taux de croissance, voire une stagnation, et une réaction à la crise d'une image traditionnelle de supériorité. Ironiquement, ce sont le virage économique vers le capitalisme à la fin des années 1970 en Chine, l'implosion de l'Union soviétique au début des années 90, et le tournant décisif de l'Inde vers une économie de marché en 1991 qui ont créé les conditions d'émergence d'un monde multipolaire dans lequel l'ancienne domination occidentale s'est érodée. La délocalisation de l'industrie vers l'Asie, bénéficiant d'une main-d'œuvre bon marché et d'une expertise technologique croissante alimentée par les entreprises occidentales elles-mêmes, n'a fait que renforcer la position des nouvelles puissances émergentes. L'expansion européenne a entraîné un coût extraordinaire pour les populations autochtones. Transfert forcé de personnes réduites en esclavage, expropriation des terres, réorientation de la fiscalité, taux d'extorsion significatif, nouvelle division internationale du travail et imposition de formes directes ou indirectes de domination politique. Tous ces changements ont été concrétisés par des méthodes violentes qui ont laissé des traces dans la mémoire locale. Le contre-coup politique contemporain, résultant de la croissance économique extraordinaire des 50 dernières années dans d'autres parties du monde, l'autre facette involontaire de l'impact occidental, est en cours. La réponse européenne à ce contre-coup politique s'est avérée difficile. La projection idéologique de la suprématie européenne, véhiculé par des textes, des images, des monuments et des musées, qui a renforcé les asymétries économiques et les hiérarchies entre les peuples, est omniprésente. Le passage de cette idéologie à un terrain de jeu international ouvert et égalitaire se heurte à la résistance d'une bonne partie des Européens eux-mêmes et à la suspicion d'hypocrisie et de manipulation politique de la part des anciennes populations colonisées. L'histoire globale se situe à cette intersection, cultivée par une minorité de chercheurs cosmopolites qui mettent en lumière les flux historiques changeants de l'exploitation et des échanges asymétriques, mais se heurtent aux efforts divergents de l'histoire locale, régionale et nationale qui ne s'intéressent pas aux différentes échelles d'analyse. Penchons-nous maintenant sur les fluctuations démographiques et économiques mondiales qui peuvent nous aider à nous affranchir des visions essentialistes et statiques. Les données démographiques utilisant la division contestable des continents montrent une proportion relativement stable de 3 pour 1 de la population en Asie par rapport à l'Europe pendant de nombreux siècles, mais l'écart s'est considérablement creusé au cours des 70 dernières années, la population asiatique ayant progressé pour atteindre aujourd'hui 4,8 milliards d'habitants, tandis que celle de l'Europe stagne autour de 743 millions. La population africaine, qui a longtemps été à la traîne par rapport à l'Europe, due à la traite, a également explosé, s'élevant désormais à 1,58 milliard d'habitants, et les Amériques, qui se trouvaient dans une situation bien moins favorable, jusqu'en 1900, enregistre une croissance régulière avec désormais 1,1 milliard d'habitants. Le phénomène de vieillissement de la population européenne sera bientôt suivi par d'autres continents, mais l'Afrique connaîtra une forte progression au cours des prochaines décennies. Le produit intérieur brut par habitant, calculé en parité de pouvoir d'achat, relève une situation plus complexe. Et j'utilise ici les données de Angus, recueillies par Angus Madison et Stephen Broadberry, complétées avec des données de la Banque mondiale. La Chine avait probablement une production économique, et c'est, on le sait, un indicateur très limité, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives. La Chine avait probablement une production économique par habitant nettement supérieure à celle de n'importe quelle région européenne jusqu'en 1400, à l'exception de l'Italie, avant d'entamer un déclin constant. L'impact des guerres du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, suivi des politiques désastreuses des années 1950, n'a été inversé qu'avec les réformes de la fin des années 1970, qui ont déclenché une croissance économique soutenue, favorisée par des investissements étrangers et les transferts de technologies. L'Inde a affiché un PIB par habitant relativement faible depuis 1600, reflétant plus tard les contraintes de la période coloniale, une situation qui n'a été inversée qu'avec les réformes du début des années 90. La reprise de ces deux grandes régions du monde reste toutefois en deçà des performances des États-Unis, de l'Australie, du Canada, de l'Europe, des pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient et de certains pays de l'Extrême-Orient. La Chine se situe désormais au-dessus de la moyenne mondiale, tandis que l'Inde en est à environ la moitié, mais il faut tenir compte de la taille de la population et des variations dans le temps et dans l'espace. Le PIB total place désormais la Chine en deuxième position et l'Inde en quatrième position dans le classement mondial. La situation interne de l'Europe a présenté des variations historiquement significatives entre l'Est et l'Ouest, mais aussi entre le Nord et le Sud, avec le déclin de l'Italie après la fin du XVIIe siècle, contrastant avec la croissance extraordinaire des Pays-Bas puis de l'Angleterre du XVIIe au XIXe siècle. L'accumulation de capital en Europe occidentale a bénéficié de l'expansion. L'apport colonial est maintenant estimé, et il y a pas mal d'études là-dessus, Jaime Reyes au Portugal, Leandro Prados en Espagne, Stephen Broadberry à l'échelle européenne. Donc, l'apport colonial est estimé entre 10 et 20% du revenu national des pays européens concernés de 1500 à 1800. Ce n'est pas négligeable. Cet apport a pris encore plus d'importance entre les années de 1890 à 1930 et il faut tenir compte de l'implication de pays européens sans possession coloniale directe, comme la Suisse, qui produisait et exportait des textiles appelée indienne. L'inertie de cette position dominante contribue à expliquer la place du premier plan de l'Europe en termes de production économique dans les classements internationaux jusqu'à aujourd'hui, même face à une concurrence croissante des pays asiatiques. Nous vivons donc une période de transition où certains pays bénéficient d'avantages historiques, tandis que d'autres investissent dans le changement et participent très clairement dans le changement technologique. On ne peut écrire l'histoire mondiale de l'Europe sans porter un regard neuf sur les principales divisions de l'humanité. La distinction entre peuples civilisés et barbares, que l'on retrouve à travers l'hémisphère nord, de l'Europe à la Chine et au Japon, en passant par le monde islamique, a été renforcée par l'expansion européenne et projetée en Afrique, aux Amériques et en Océanie. J'ai oublié de parler, lorsque je parlais des cartes, j'ai oublié de parler du premier atlas publié en Europe par Abraham Ortelius, en 1570, Théâtre Mort de Terrarum, où la métaphore des continents, la personnification des continents par des femmes a été placée d'une façon clairement hiérarchique, avec l'Europe en eau, toute vêtue, avec toutes les propriétés, et l'Amérique en eau, avec des symboles de cannibalisme. Et maintenant, l'iconographie disponible sur les peuples du monde au début de l'ère moderne montre des préjugés communs à l'encontre des peuples nomades, nus ou isolés, dépourvus d'expériences urbaines. La notion de sauvage était omniprésente, de Confucius à Darwin, bien que la tradition chinoise prônât une amélioration possible. Cette distinction a été rendue obsolète par la décolonisation, mais n'a pas disparu. Et nous voyons ici le codex Boxer, qui a été compilé aux Philippines, à Manille, en 1595, autour de 1595, et qui a intégré des images produites par des Chinois et des Japonais. Et ça a été bien étudié. Ici, nous avons les militaires chinois, nous avons les mandarins, nous avons les habitants des Philippines et nous avons les indigènes des îles Ladrones à l'est des Philippines. Et donc nous voyons comment les périphéries sont représentées aussi en Orient. La division entre hommes libres et esclaves trouve un développement significatif avec la traite transatlantique de l'Afrique vers les Amériques. Cette traite a structuré, la traite des esclaves, des esclavisés, a structuré une économie de plantation dans le Nouveau Monde, caractérisée par une main-d'œuvre intensive et un taux de mortalité élevé, ce qui l'a différencié des formes antérieures d'esclavage en Asie et en Afrique. Le mouvement pour l'abolition a vu le jour parmi les Africains esclaves et libres à travers leurs émeutes et pétitions constantes, notamment lors d'un cas marquant survenu à Rome en 1683, étudié par José Lingne Nafafe. En Europe, la campagne pour l'abolition a été alimentée par les Britanniques sur la base d'une dissidence protestante minoritaire. L'objectif était de créer un marché colonial équitable, mais ce mouvement, avec la convergence de la Déclaration française des droits de l'homme, l'universel homme, a été récupéré par les esclaves, par exemple en Haïti, pour revendiquer leurs droits et lutter pour l'indépendance. Comme d'habitude, les droits peuvent concerner seulement un segment de la population, mais sont appropriés et développés par les opprimés. La résistance à l'abolitionnisme s'est manifestée parmi les autres puissances européennes et dans d'autres parties du monde. Aux États-Unis, bien que l'abolition ait été décrétée à la fin de la guerre civile, l'affirmation des droits civiques n'a été obtenue que dans les années 1960 et le racisme reste un problème structurel qui entrave l'accès aux soins de santé, à l'éducation, au logement et au marché du travail. L'Europe est comparativement dans une meilleure condition, mais il y a encore les divergences entre groupes de migrants en matière de résultats scolaires et d'accès au marché du travail. J'ai établi un lien entre l'esclavage et le racisme dans le cas européen, puisque l'étiquette « noix de la terre » a été appliquée aux Amérindiens et aux Asiatiques, mais il existait d'autres formes de racisme, tels que des préjugés ethniques associés à des actions discriminatoires dans d'autres parties du monde. Il s'agit là de la troisième division de l'humanité qui transforme l'ethnocentrisme en une division raciale rigide projetée sur les peuples du monde. Elle peut être intériorisée, comme dans le système des castes sud-asiatiques, fondée sur l'axe pureté-impureté attribué aux professions, ou au Japon et en Corée, visant les parias liés à des activités marginales discriminées, empêchant ces minorités de s'intégrer pleinement dans le système social. L'esclavage, qui n'était pas nécessairement racialisé, a créé des lignages en Afrique et s'est étendue dans certaines régions d'Asie jusqu'au début du XXe siècle et au-delà. Le problème persiste dans des zones particulières, telles que le Sahel, étudié par Benedetta Rossi avec les ONG africaines locales, et a été identifié dans différentes parties du monde par Jean Alain. La question ici porte sur l'exclusion sociale qui subsiste sous formes diverses. La distinction entre citoyens et étrangers est une autre division structurelle qui touche différents continents. Dans le monde colonial, la discrimination à l'égard des populations autochtones se manifestait par leur classification comme des peuples non civilisés, exclus de toute participation réelle à la vie politique. Et je parle surtout dans ce cas-là du cas portugais. Le cadre juridique international défini après la Seconde Guerre mondiale avec la Déclaration universelle des droits humains garantissait un ensemble de droits économiques, sociaux et politiques qui ne sont toujours pas pleinement mis en œuvre. Même pas pleinement. La crise croissante des réfugiés due à la guerre ou à la sécheresse a été exploitée par l'extrême droite en Europe qui ignore les réseaux de passeurs et les entrepreneurs locaux qui profitent des bas salaires et profitent aussi pour les bas salaires de la polémique. Le genre est une autre division qui structure les sociétés à travers le monde, caractérisée par une subordination générale des femmes aux hommes et l'imposition de la logique binaire. En Chine, les 5 préceptes confuciens correspondaient aux vertus de l'amour filial, de la loyauté, de la fidélité conjugale, l'obéissance et de la sincérité de la part des femmes, précisons-le. La hiérarchie naturelle impliquait la soumission des enfants à leur père, des femmes à leur mari, des veuves à leurs fils et des sœurs à leurs frères aînés. Malgré l'émancipation des femmes au cours du XXe siècle, la vie politique reste un domaine presque exclusivement masculin. En Afrique, la fluidité des genres a connu une histoire en marche, tandis que plusieurs régions ont conservé des systèmes de succession matrilinéaire, mais les femmes n'ont pas acquis le pouvoir. Le travail féminin acharné était la norme jusqu'au XXe siècle, comme l'a montré Kokri Vidrovitch. Cependant, l'islam garantissait une part d'héritage aux femmes dans sa zone d'expansion. L'Europe avait un système plus complexe avec des régions au sud où l'héritage était équitable, ce qui n'a pas modifié la règle générale de la domination masculine, tandis qu'en Russie, Pierre le Grand a élargi l'accès des femmes à l'héritage. Les débats sur la querelle des femmes depuis la fin du Moyen-Âge a eu un certain impact conceptuel qui a facilité le changement moderne qui reste à achever à différents niveaux. Il s'agit de l'histoire la plus déconnectée à travers le monde, bien qu'il y ait eu des points de convergence, notamment dans les régions côtières d'Afrique, où la présence européenne a favorisé l'héritage féminin en raison du taux de mortalité masculin, ou chez les nouveaux chrétiens d'origine juive qui ont adopté le système d'héritage équitable ibérique. S'il y a actuellement un changement mondial en cours dans les divisions structurelles de l'humanité, il est plus prononcé dans ce domaine du genre, suscitant une résistance farouche de la part des privilèges bien ancrés. La division entre propriétaires et dépossédés est omniprésente. Il s'agit sans doute de la division la plus tenace ayant précédé le système capitaliste et s'étant encore davantage enracinée avec son développement qui englobe désormais la quasi-totalité du monde. L'inégalité résulte de cette division. Si on utilise le coefficient Gini pour mesurer la répartition des revenus, l'Europe présente les niveaux les plus bas, en partie en raison de sa position historique, tandis que la transition vers l'économie de marché en Chine et en Russie a considérablement accru les inégalités de répartition au sein de la population. Les pays présentant les plus fortes inégalités sont l'Afrique du Sud et certains autres pays africains, suivis par les pays d'Amérique latine et les économies pétrolières. Les États-Unis occupent la première place en matière d'inégalité parmi les pays développés. L'exploitation coloniale contribue à expliquer la richesse dominante en Occident, mais pas l'évolution des terres exploitées. En Amérique latine, par exemple, les inégalités ont augmenté au cours du XIXe siècle, prouvant que le taux d'extraction dont parle Branko Milanović dépend de la croissance économique. Cependant, les inégalités de revenus masque une inégalité bien plus profonde en matière de patrimoine, comme Thomas Piketty l'a souligné à juste titre. Si l'on passe à une autre échelle, 1% de la population mondiale détient 42% de la richesse mondiale, tandis que la moitié la plus pauvre en détient seulement 2%. Et le graphique de Piketty est sur l'inégalité de richesse. Et l'Europe, les 10% plus riches d'Europe et des États-Unis, et combien la totalité des richesses, ces 10%, s'approprient. Dans ce monde de plus en plus imbriqué, malgré les tentatives de déglobalisation, des formes politiques que l'on croyait reléguées au passé, telles que les empires, font un retour surprenant. Les empires ont joué un rôle majeur dans la circulation d'informations et de la technologie, bien que manipulée par ceux qui contrôlaient les mécanismes de production et distribution, reléguant même minorités et communautés locales vers la périphérie sociale. L'Europe a connu à la fois les empires terrestres avec la Russie et les empires maritimes avec les pays de la côte occidentale. Les conséquences pour les peuples autochtones et nomades n'ont pas été distinctes. Mais le fait est que les empires terrestres ont survécu et sont aujourd'hui en pleine réorganisation à l'échelle mondiale. L'impact pour l'instant est une égalité croissante des richesses aux États-Unis, en Chine, en Russie et en Inde, tandis que la situation des minorités semble plus précaire. L'intervention militaire, qui avait été en partie remplacée par le pouvoir subtil ou doux, est aujourd'hui de nouveau à la mode, mais les nouvelles technologies de guerre favorisent la résistance contre les grandes puissances. L'Europe ne dispose pas d'avantages significatifs dans ce nouveau contexte, en raison de sa configuration politique hybride, de son marché commun inachevé, de sa désindustrialisation et de son relatif retard technologique dans certains domaines, bien qu'il y ait quelques domaines positifs de changement, notamment en matière de genre. Reste à voir si la force d'un passé pluraliste et concurrentiel, une histoire d'accumulation et de systématisation des connaissances, ainsi qu'une conscience critique de l'extraction historique pourront aider l'Europe à promouvoir une construction plus ouverte et égalitaire de l'avenir avec les autres peuples du monde. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.